Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de l'été de la podcast PC, jeux, gadgets et le reste. Et oui, édition de l'été, car comme je l'avais dit dans la podcast précédente, je me suis plus ou moins pris un mois de vacances au niveau de la podcast. Donc, cette podcast-ci aura un petit peu plus de news que d'habitude. Il faut dire que ce n'est pas plus mal parce que souvent, en été, il y a assez peu de choses qui se passent dans le domaine de l'informatique et des loisirs multimédia, vu qu'on est tous à la plage. Et oui, l'été, c'est quand même aussi fait pour ça. Alors, quoi de neuf dans ce numéro ? Eh bien, je vais vous parler de pas mal de news, un petit peu raconter les quelques annonces intéressantes qui ont eu lieu à l'E3, donc l'Entertainment Expo aux États-Unis. Pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas la chose, je rappelle que l'Entertainment Expo a été downsizé cette année-ci, c'est-à-dire que c'est devenu une beaucoup plus petite exposition que ce que c'était avant. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas tellement de nouvelles. Je vais faire un rapide point sur les netbooks, vu que la plupart des machines dont j'avais parlé dans la podcast précédente sont maintenant dans les magasins. Et ensuite, je vais faire un mini dossier sur les SSD, ou les disques à base de mémoire solide. En effet, c'est une nouvelle technologie qui commence petit à petit à intégrer les PC portables et les PC de salon, enfin, surtout les PC portables. Et c'est une technologie sur laquelle il y a apparemment beaucoup d'idées préconçues ou de fausses idées, que je vais donc un petit peu clarifier. Sinon, ceux d'entre vous qui ont acheté Science & Vie Micro Spécial iPod numéro 3, donc la version de l'été 2008, et qui ont ouvert le magazine à la page numéro 29, peuvent se rendre compte qu'il y a une photo de moi. En effet, j'ai été interviewé par Science & Vie Micro iPod au sujet d'un tout autre projet que la podcast, c'est-à-dire mon dessin animé Fouillon Fouillon. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai pas fait une podcast en juin, c'est que j'étais occupé à travailler sur la deuxième série qui est actuellement en cours. Puisque la première série, c'était graphiquement pas terrible, je prépare maintenant une deuxième série avec des graphismes entièrement en 3D, donc ça m'a pris un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Le premier épisode devrait sortir à la fin de l'été, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, j'essayerai de vous tenir au courant, évidemment. Tant qu'on en est à parler de création, je tiens à préciser que la petite musique que vous êtes en train d'entendre, qui fait un petit peu exotique penser aux vacances dans les pays lointains, eh bien il s'agit de Mille et une nuits de Segerama que vous pourrez trouver sur Jamendo. Je vais comme d'habitude essayer de mettre un lien sur le site de la podcast www.pcjj.com. Vous êtes toujours les bienvenus pour ce qui est de venir dire bonjour sur le site et laisser un commentaire ou l'autre. Sans plus attendre, je propose de commencer directement avec les news.
Vous vouliez du nouveau ? Voilà les news.
La news du mois de juin qui impacte probablement le plus les utilisateurs d'Internet, c'est la sortie du navigateur Internet Firefox en version 3. Alors, qu'y a-t-il de nouveau dans cette version 3 ? Eh bien, entre autres choses, il y a un design un petit peu amélioré, vu que maintenant le bouton pour retourner en arrière des pages est plus gros que celui pour aller vers l'avant, ce qui est logique vu qu'en général on utilise son back button, ou le bouton pour aller en arrière, et pas tellement celui pour avancer. La barre d'adresse a été complètement revue, vu qu'elle est maintenant beaucoup plus intelligente, elle retrouve beaucoup plus facilement les sites où vous avez été. Ensuite, Firefox vient maintenant avec plusieurs skins par défaut, c'est-à-dire que si vous installez Firefox sous Windows XP ou sous Linux ou sous Mac, vous aurez un aspect différent qui sera en fait assorti à l'aspect de l'operating system que vous utilisez. Cela signifie que maintenant, Firefox donnera vraiment l'impression d'être une partie intégrante de votre système d'exploitation. Enfin, pour ceux d'entre vous qui préfèrent utiliser le navigateur Internet de Microsoft, c'est-à-dire Internet Explorer, sachez qu'une nouvelle version, la version 8, est attendue pour vers la fin de l'année. Donc, on peut espérer qu'Internet Explorer rattrape un petit peu l'avance qu'a maintenant pris Firefox. Tant que j'en suis à parler de Microsoft, le mois de juin marquait également la fin de vie de Windows XP sur les machines préinstallées. Du moins préinstallées chez les grands fabricants, genre Dell, Acer et ainsi de suite. Cependant, la demande pour les machines équipées de Windows XP est telle que eh bien, la plupart de ces fabricants vont quand même vous délivrer une machine installée sous Windows XP grâce au downgrade right. C'est-à-dire que si vous achetez la version professionnelle de Windows Vista, vous achetez également le droit de downgrader le système d'exploitation vers Windows XP professionnel. Eh bien, Dell, par exemple, a annoncé qu'il offrirait ce service de downgrade fait automatiquement sur certains de ses modèles. Un autre domaine où justement ce système Windows XP est encore très très populaire, c'est sur les laptops relativement bas de gamme. En effet, si jamais vous vous rappelez, Microsoft avait décrété qu'il accepterait encore de vendre Windows XP jusqu'en 2010, mais uniquement sur les netbooks, c'est-à-dire les machines avec des écrans de 10 pouces ou moins et des restrictions relativement importantes au niveau du processeur. Eh bien, Microsoft a décidé d'élargir assez grandement les restrictions, vu qu'il est maintenant possible d'installer Windows XP version netbook, si je peux parler ainsi, sur des ordinateurs qui ont des écrans jusqu'à 14 pouces. Et oui, c'est pratiquement un ordinateur portable standard. C'est une belle façon pour Microsoft de continuer à vendre des machines Windows XP tout en prétendant qu'ils ont arrêté d'en vendre. Et cela leur permet également de sauver la face vis-à-vis de ventes de Windows Vista qui ne sont, il faut bien avouer, pas terribles. Enfin, ils en vendent beaucoup, mais une grande partie des licences Vista sont downgradées vers Windows XP. Il y a une grande différence entre les chiffres de vente qu'annonce Microsoft et la part de marché que semble avoir Windows Vista sur les sites de statistiques qui collectent ces informations via l'Internet, par exemple. Tant qu'on en est à Microsoft et au réseau, à l'Internet, il y a une bonne nouvelle pour tous ceux d'entre vous qui voulaient jouer à Windows Live. Alors Live, je rappelle un petit peu ce que c'est. En fait, c'est le système de jeu en réseau que Microsoft a mis en place pour sa Xbox 360. En effet, si jamais vous vouliez jouer par exemple à Battlefield sur la Xbox 360 en réseau, eh bien il faudrait être membre de Live sur votre Xbox 360, sans quoi vous ne pouvez pas jouer en réseau. Alors évidemment, dans le monde PC, c'est différent. Si jamais les joueurs acceptent de payer pour une fonctionnalité comme World of Warcraft, qui vous offre quand même un univers permanent, garde vos personnages et ainsi de suite, ce n'est pas du tout le cas pour le simple jeu en réseau à la Battlefield. Par conséquent, quand Microsoft a dit ben, « pour jouer au jeu comme à la Battlefield ou à Unreal Tournament, vous allez devoir nous payer un abonnement », juste parce qu'on est Windows Live, eh bien, les gens, ils ont décidé, ben nous, on va pas acheter les jeux qui tournent sous Windows Live. Et évidemment, ça a posé un gros problème. Donc, Microsoft a quand même plus ou moins récupéré ses esprits et a déclaré que désormais, Live pour Windows, eh bien, ça serait gratuit. Ils vont même apparemment aller jusqu'à rembourser les gens qui auraient pris un abonnement d'un an à Windows Live. Donc, apparemment, si vous avez pris ça, ben, vous serez contacté par Microsoft et vous devriez obtenir un remboursement. Tant qu'on en est à parler des jeux Microsoft et de la Xbox 360, Microsoft a annoncé qu'il allait arriver d'ici la fin de l'été, début de l'automne, une Xbox 360 équipée d'un disque dur de 60 Go. Cette machine ne devrait pas coûter spécialement plus cher que l'actuelle 20 Go. Il faut dire que 20 Go de disque dur, pour l'instant, vu le prix des disques durs 2 pouces et demi, ça faisait vachement radin quand même. À mon avis, il devait même avoir du mal à en acheter, parce que du 60 Go, ça me semble quand même un minimum de nos jours. Tant qu'on en est à parler de consoles et de disques durs, Sony a décidé de suivre, à savoir que fin août, ils vont remplacer la PlayStation 3 équipée d'un disque dur de 40 Go par un disque dur de 80 Go. Encore une fois, le prix de la console ne bouge pas, ce sera toujours aux environs des 400€ pour le pack de base. Par contre, une nouvelle intéressante, c'est que le prix de la Xbox 360 aux États-Unis a baissé. Il n'y a rien qui a été annoncé pour l'Europe pour l'instant. Mais il y a fort à parier que l'on ait une baisse de prix en Europe également d'ici la fin de l'année. Tant qu'on en est à parler des jeux, j'aimerais attirer votre attention sur un produit relativement intéressant qui s'appelle Stream My Game. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit en fait d'un site web, un portal, qui vous permet de jouer à un jeu qui est installé sur un de vos PC, sur un autre PC via leur réseau. C'est une sorte de remote desktop optimisé pour les jeux, mais qui marcherait aussi sur Internet si jamais vous avez une bonne bande passante. Bon, j'ai essayé la version gratuite, qui est malheureusement limitée à une résolution de 640x480. Ça marchait plus ou moins bien. Mais bon, c'est pas fabuleux, mais techniquement, l'exploit est quand même là. Il faut bien avouer que faire ça avec tout ce qui est la 3D et tout, et les mouvements qu'on a dans un jeu, c'est quand même pas un petit achievement. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, eh bien, allez voir sur StreamMyGame. Ceci clôture plus ou moins les news. Je ne vais pas réellement parler des statistiques de vente des consoles et des operating systems pour l'instant, vu qu'en général en été ça ne bouge pas trop. On reverra un petit peu, on fera un petit peu le point en automne. Donc on va commencer tout de suite notre dossier sur les SSD.
Apportez-moi le dossier suivant, s'il vous plaît.
Alors, les SSD, de quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, il s'agit d'une sorte de grosse carte compacte flash ou SD de mémoire que l'on utiliserait comme disque dur. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est le principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un disque dur qui tourne dans votre PC, vous avez juste des chips de mémoire flash, donc de mémoire plus ou moins permanente, disons. Alors, quel est l'intérêt de passer à de la mémoire flash par rapport à un disque dur tournant? Eh bien, le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins fragile. En effet, il faut savoir qu'un disque dur, c'est quand même un plateau en verre qui tourne assez vite et une tête très fragile qui est à quelques microns de distance. Donc, le moindre choc est toujours un risque. C'est-à-dire que si vous laissez tomber votre laptop, eh bien vous savez comme moi qu'il y a quand même d'assez bonnes chances que votre disque dur soit endommagé et que votre laptop ne marche plus. C'est un problème que l'on n'a pas vraiment avec les SSD. Si vous laissez tomber votre laptop, le pire qui puisse arriver, c'est que l'écran se casse. Mais le disque lui-même et vos données ne seront pas endommagés. Enfin bon, faut pas rouler dessus avec une voiture quand même. Quoique certains aient fait des tests avec des compacts flash et des SD, c'est peut-être, dans certains cas, ça marche quand même. Même si on roule dessus en voiture, mais personnellement, je n'essayerai pas avec mon SSD. Un autre avantage dans certains cas, c'est la vitesse. En effet, lorsque vous avez un disque dur, eh bien, si jamais vous devez lire un fichier qui se trouve d'un côté du disque, puis un fichier qui se trouve de l'autre côté du disque, puis encore un fichier qui se retrouve tout à fait de l'autre côté du disque, votre tête, elle voyage beaucoup et elle perd beaucoup de temps. Ce n'est pas le cas avec un SSD, vu que tout est dans des chips mémoire, eh bien, peu importe où l'information est stockée, elle arrivera toujours aussi vite. Maintenant, un autre inconvénient du SSD point de vue vitesse, c'est qu'un SSD, à la base, c'est pas très rapide en écriture. Ce qui peut être un inconvénient sous Windows qui utilise beaucoup le fichier swap. Évidemment, certains solid state disks, donc disques mémoire, sont rapides en écriture, mais ce sont souvent des chips qui coûtent plus cher. Donc la vitesse a ici un prix. Par contre, dans le cas des solid state disks, la vitesse en lecture est généralement excellente. Donc, pour une utilisation sous Linux où il y a moyen, par exemple, de configurer l'operating system pour n'utiliser le swap que quand c'est vraiment nécessaire, c'est une bonne option. De même, si jamais vous avez beaucoup de mémoire sous Windows et que vous ne créez pas de fichier swap, eh bien cela peut quand même être une bonne solution d'utiliser un SSD. Un autre facteur qui peut être à l'avantage des SSD, mais qui a été beaucoup contesté récemment, c'est la consommation énergétique. En effet, il ne faut pas faire tourner physiquement un disque dans le cas d'un SSD. Par conséquent, eh bien, vous ne dépensez pas d'énergie tant que vous n'essayez pas de lire des données. Par conséquent, si jamais vous avez une utilisation, comme par exemple surfer sur Internet, où vous n'accédez pas fréquemment au disque, eh bien il est plus avantageux d'avoir un SSD, vu que vous ne consommerez pas du tout d'énergie tant que vous n'écrirez pas dans le cache de votre navigateur Internet. Et la plupart du temps, avec la mémoire qu'ont les ordinateurs actuellement, il est assez rare quand même qu'on écrive beaucoup sur le cache disque lorsqu'on navigue sur Internet. Alors, c'est un petit peu discutable dans d'autres optiques d'utilisation. En effet, si par exemple vous lisez une vidéo, donc que vous accédez constamment au disque, alors là, ce pourrait être encore les disques physiques, donc les bons vieux disques durs qui tournent, qui seraient les plus économiques. Pourquoi ? Eh bien parce que là, vous utilisez tout le temps le disque. Par conséquent, votre SSD serait tout le temps en train de fonctionner. Et un SSD qui fonctionne tout le temps, eh bien, il consommerait autant, voire même dans certains cas plus, qu'un disque dur normal qui fonctionne tout le temps. À vous donc de voir votre profil d'utilisation. Si jamais c'est pour surfer ou faire du traitement de texte, un SSD sera probablement très avantageux dans votre laptop. Si vous vous en servez au contraire pour écouter de la musique, faire du multimédia, lire des vidéos, ça devient déjà un peu plus discutable. Un autre point sur lequel on attire souvent l'attention, cette fois-ci à la défaveur des SSD, c'est qu'il y aurait un nombre de cycles d'écriture limité. En effet, si jamais dans le cas d'un disque dur normal, vous pouvez écrire et lire autant de fois que vous voulez, dans le cas d'un disque SSD, eh bien, vous ne pouvez pas écrire un nombre illimité de fois. Il faut savoir que dans les anciens temps, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, ce nombre de cycles d'écriture était fortement limité. Il s'agissait en général d'un millier, voire 10 000 fois. Ça peut sembler beaucoup, mais bon, lorsque vous avez un fichier texte, par exemple comme un log, que vous mettez à jour constamment, on peut y arriver assez rapidement. Seulement voilà, les choses ont pas mal évolué depuis cette époque, et sur les disques modernes, ce n'est plus tellement un problème. J'explique un petit peu. La plupart des disques SSD modernes ont une capacité de 100 000 écritures par cellule. Cela signifie que sur chaque unité de mémoire, vous pouvez écrire au moins 100 000 fois avant qu'elle ne soit usée. Maintenant, si on considère que la plupart de ces disques ont au moins 8 GB et qu'on considère qu'il y ait 8 GB de libre, si jamais vous écrivez constamment 20 MB par seconde, ce qui est quand même déjà beaucoup, vu que dans le cas de certains SSD, ça s'approche déjà pas mal de la vitesse d'écriture maximum, eh bien, il vous faudrait déjà 200 secondes, à savoir plus de 3 minutes, pour pouvoir utiliser une fois chacune des cellules de vos 4 GB. Car en effet, les gestionnaires de SSD actuels, donc les chips qui gèrent le disque de mémoire, s'arrangent pour étaler les usages sur tout l'espace disponible. Par conséquent, un de vos 100 000 cycles vous prendrait 3 minutes. Donc, si vous écrivez constamment, votre disque dur serait usé après 3 minutes multipliées par 100 000. Cela équivaut donc à 5 000 heures d'écriture ou encore à quelque chose comme 208 jours d'utilisation, enfin d'écriture intensive. Maintenant, il faut être clair, lorsque vous utilisez un disque, vous écrivez rarement 20 MB par seconde pendant des heures et des heures et des heures. Par conséquent, ces disques se révèlent souvent beaucoup plus fiables dans la durée que les disques durs traditionnels. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un des gros points de vente des SSD, c'est qu'ils sont durables. Un disque dur magnétique souvent se dégrade après 5 à 6 ans. Ce n'est pas le cas d'un SSD si jamais vous n'écrivez pas trop. Ensuite, on peut rajouter un autre facteur qui est que 100 000 écritures, c'est pour les modèles bas de gamme. Si jamais vous achetez un SSD de qualité, il est tout à fait possible d'obtenir des modèles qui soient certifiés à plus ou moins 1 million, voire 2 millions d'écritures. Dans ce cas-ci, vous imaginez bien que vous pourriez écrire avec 20 MB par seconde sur votre disque pendant des années et des années avant que celui-ci ne soit usé. Donc, ce facteur d'usure des SSD en écriture n'est plus critique de nos jours. Il suffit de configurer le système d'exploitation pour ne pas écrire abusivement. sur le disque et votre SSD devrait durer beaucoup plus longtemps qu'un disque dur normal. Alors, que reste-t-il aux disques durs normaux si jamais les SSD ont tous ces avantages ? Eh bien, le gros avantage qui reste, c'est clairement le prix. En effet, du SSD, eh ben désolé, c'est cher. La plupart des disques de même 16 ou 32 Go vont vous chercher facilement dans les 150€, voire plus. Tandis qu'évidemment un disque dur normal, ben même si vous prenez du 2 pouces et demi, vous aurez probablement quelque chose comme 320 Go, à savoir à peu près 10 fois plus pour la moitié du prix ou presque. Par conséquent, ces SSD, eh bien, ils ne se justifient réellement que dans des machines portables que l'on va trimballer un petit peu partout du fait de leur solidité et de leur faible consommation énergétique. Donc, il n'est pas anormal de trouver ces disques dans des machines genre netbook et PC et ainsi de suite. Parlant de ça, nous allons entamer le petit dossier suivant qui est un bref résumé de la situation vis-à-vis des netbooks. Et oui, je l'ai placé à la fin parce que je me dis que pour ceux qui ne s'intéressent pas aux netbooks et qui ont déjà entendu parler de ça dans les deux émissions précédentes, ça peut être bien de pouvoir le passer. À ces gens-là, je dis déjà au revoir. À ceux qui veulent savoir, pour avoir le point sur les netbooks, restez en ligne, on y arrive de suite.
Apportez-moi le dossier suivant, s'il vous plaît.
Encore avec nous, intéressé par les netbooks ? Ok, je vais un petit peu faire le point sur ce qui s'est passé dans ces deux derniers mois. Il faut savoir que, enfin, de nombreux netbooks qui avaient été annoncés sont effectivement disponibles. D'abord, le plus ancien modèle, si on peut parler, c'est l'EPC-701. Cette machine avec un écran 7 pouces qui était disponible pour 300€ a vu son prix être réduit à peu près 250€, ce qui en fait pour l'instant le netbook le meilleur marché du marché. Ensuite, toujours chez Asus, il y avait l'EPC 900. L'EPC 900 a vu son prix réduit également aux environs des 350€. Il faut dire que le prix de 400€ n'était absolument plus justifié face à la concurrence actuelle de MSI et surtout d'Acer avec son Aspyr One. Donc une réduction de prix. Par contre, une assez mauvaise nouvelle pour ceux d'entre vous qui voudraient obtenir une version Linux, elle est toujours indisponible, sauf chez certains revendeurs spécialisés en Angleterre, comme Efficient PC Co. UK, ou encore sur eBay. La raison ? Eh bien, il faut savoir que la version Linux est équipée, pour le même prix que la version XP, d'un disque SSD beaucoup plus grand. Si la version XP a 12 Go, la version Linux en a 20. Alors, quelle est l'explication donnée par Asus à la pénurie des PC 900 Linux avec le disque de 20 Go ? Eh bien, c'est tout simplement que cette machine serait en fait beaucoup plus populaire que la machine version XP et que par conséquent, eh bien, la plupart de leurs machines seraient déjà vendues et ils ne trouveraient jamais le chemin des revendeurs français. Ils n'arrivent pas à en fournir suffisamment. Il faut dire que si le prix conseillé par Asus est le même, sur eBay, on note une tendance à la vente des machines Linux plus chères que les machines XP, du fait probablement du plus grand SSD et du fait que la plupart des gens sont soit contents avec le Linux de base, qui est quand même assez facile, soit vont mettre un autre Linux dessus, soit vont eux-mêmes installer Windows XP et veulent surtout profiter des 20 Go. Alors Asus est parti sur l'idée de faire moitié du stock vers Linux et moitié vers XP. Et évidemment, ça ne s'est apparemment pas révélé être un très bon choix. L'autre nouvelle concernant Asus, c'est la multiplication des modèles EPC. En effet, il faut savoir que si après le 701, le 701 4G, le 701 Surf, le 900, le 901, il y a maintenant le 904, le 1000 et le 1000H et bientôt le 1000HD. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en gros, il s'agit de toutes les combinaisons possibles de formats de châssis, de clavier, d'écran et de processeur. Vous pouvez en effet maintenant avoir un processeur d'Optane à 900 MHz, qui est donc le processeur de l'EPC 900, dans un châssis de EPC 1000, qui est donc prévu pour un écran 10 pouces, mais avec seulement un écran 9 pouces. Et ils appellent ça l'EPC 904. Il y aura apparemment aussi un 900A, on ne sait pas exactement ce que c'est, j'ai oublié. Enfin bon, il va y avoir plein de modèles qui vont sortir. Tous ces modèles, enfin certains de ces modèles en tout cas, seront également disponibles sous Linux, Windows ou une combinaison des deux. Donc ne cherchez pas trop à comprendre. Je suppose que tout ça sera clarifié un petit peu plus tard. Le fait est que pour l'instant, tout le monde rigole un petit peu d'Asus qui sort un petit peu n'importe quoi avec la mention « et » tellement ça a du succès. Il faut dire qu'ils avaient déjà annoncé la E-TV et la E-Box qui est une sorte de desktop miniature, mais encore beaucoup plus petit qu'un shuttle et qui sert en fait de desktop, mais à la E-PC. À propos, il semblerait que celui-ci serait bientôt disponible sur le sol français, probablement au cours du mois d'août. Passons maintenant chez la concurrence d'Asus, à savoir Acer, qui a sorti son Aspire One. Il faut dire que l'Aspire One est vraiment une très très belle machine. Un écran 9 pouces pour à peine 300€, équipé d'un disque SSD de 8Go et d'une distribution Linux customisée pas mal faite du tout. C'est une interface facile, un petit peu comme celle du EPC original, mais un peu plus travaillée. On voit qu'ils ont quand même un peu plus cherché à faire quelque chose qui attire un public un peu plus adulte. Il faut dire que l'interface de l'EPC de base, elle faisait un peu jouer enfant. Ici, c'est plus vraiment le cas, on garde la simplicité, mais avec un design un peu plus moderne, un peu plus sobre. Ensuite, cette distribution est basée sur l'Inpus Linux, qui a n'en est inconnu, mais qui est lui-même basé sur Fedora 8. Par conséquent, il est possible d'installer certains des packages de cette distribution, ce qui donne évidemment accès à VLC et à toutes sortes de software supplémentaires. Il faut bien dire que c'est à mon sens la meilleure machine à acheter si jamais vous voulez une machine à base de SSD. Une machine Linux s'entend. En effet, si jamais ce disque SSD de 8Go est très efficace pour faire tourner Linux, il n'est pas très rapide en écriture. Par conséquent, si vous y installez Windows, il faudra customiser Windows pour ne pas utiliser le swap, sans quoi vous allez vous retrouver avec une machine extrêmement lente. Sinon, cette machine est très très bien si jamais vous voulez avant tout une machine légère portable avec un SSD. Si jamais vous êtes plutôt attiré par une machine équipée de disques durs, le concurrent, le troisième concurrent qui est déjà sorti en magasin, le MSI Wind, est disponible. Enfin, si vous arrivez à en trouver en stock, car la plupart des marchands sont déjà en rupture de stock. Équipée d'un disque dur de 80Go, c'est une machine un petit peu plus grande, ce qu'elle met à profit pour avoir un meilleur clavier et un écran de 10 pouces. La machine est disponible en deux versions, une version Windows XP et une version Linux. Il y a ici cependant une petite déception. Il faut savoir que le Linux est un SUSE, mais un SUSE version entreprise. C'est SUSE Enterprise Desktop. Et par conséquent, nous n'avons pas ici une interface customisée pour un netbook, mais réellement une interface à la Windows. Bon d'accord, c'est relativement clair, mais bon, c'est pas l'idéal pour un netbook. Ensuite, si jamais il s'agit ici d'une distribution professionnelle, il faut savoir qu'elle est basée sur la version 10.1 d'OpenSUSE qui est sortie il y a 2 ans. Par conséquent, si jamais vous voulez installer un nouveau programme, comme par exemple Miro qui est sorti il y a assez peu de temps, trouver des packages est difficile. Bon, maintenant certains des packages pour OpenSUSE 10.1 ont été mis à jour par la communauté, mais pas tous. Donc si jamais vous voulez vraiment utiliser la machine comme un Linux, et par là je veux dire un vrai desktop Linux, il faudra faire attention que tous les packages modernes ne seront peut-être pas disponibles et que ça peut être un inconvénient. Maintenant, un autre problème relativement sérieux avec ce MSI Wind sous Linux, c'est que la carte réseau sans fil intégrée à la machine n'est réellement reconnue que par la distribution SUSE Desktop Enterprise qui est fournie avec. Même OpenSUSE, la dernière version, ne le supporte pas out of the box. il faut télécharger un driver, le compiler, bref, c'est assez compliqué, au point que certains ont carrément préféré ouvrir la machine pour changer la carte réseau mini PCI par une Intel qui serait mieux supportée par Linux. Pour une machine Linux, évidemment, c'est pas top. Il faut rajouter à cela que seul le setup de la toute nouvelle version d'Ubuntu ou par exemple OpenSUSE 11 fonctionne correctement. La plupart des vieilles versions d'Ubuntu ne fonctionnent pas à cause d'un problème de compatibilité entre le MSI Wind et l'installateur, ce programme d'installation donc qu'utilise Ubuntu. Par conséquent, pour une machine qui est vendue sous Linux, elle n'est pas très compatible. Il y a moyen de la faire marcher si vous êtes un utilisateur Linux averti, mais pour l'utilisateur qui débute en Linux, ce n'est tout compte fait pas la machine idéale. Il serait mieux ici d'acheter un EPC qui est généralement bien supporté par Mandriva et Ubuntu. Il faut dire que la dernière édition de Mandriva a tous les drivers préinstallés pour le EPC. Par conséquent, une installation sera extrêmement aisée. Enfin, pour clôturer, je dirais que nous verrons probablement débarquer d'ici août-septembre non seulement toutes ces versions de EPC, mais également une version de Acer Aspire One équipée d'un disque dur. On ne sait pas trop quand, mais ça arriverait. Une autre nouvelle qui a été confirmée, ce serait la sortie d'un netbook produit par Dell. Celui-ci serait équipé d'un écran 9 pouces et tournerait soit Windows XP, soit probablement une version d'Ubuntu Netbook Remix. Cette machine serait surtout intéressante par son prix vu qu'aux États-Unis elle serait vendue aux environs de $300, ce qui se traduirait à du 200€ chez nous. Ce qui serait encore moins cher que l'ancien EPC, l'EPC 7 pouces. Sur ce, je vais vous dire au revoir et au mois de septembre pour la prochaine podcast. Et amusez-vous bien cet été. Ciao !